Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième balado intitulé « Évolution de la fonction ressources humaines ». Cette fois-ci, on reçoit Éric Beautoin, moins connu du grand public, mais pour autant connu dans le milieu des affaires. Éric est connu comme quelqu'un qui a baigné dans différentes structures organisationnelles, en passant par la consultation, en travaillant dans le secteur hospitalier, et puis en faisant un retour en consultation, et cela à travers le Canada, mais aussi en Europe. En tant qu'expert de la transformation de la fonction ressources humaines, on lui posera certaines questions comme, finalement, être stratégique en ressources humaines, pourquoi c'est si important? Est-ce que les ressources humaines, selon son expérience, sont plutôt une dépense ou un actif de l'organisation? Comment les ressources humaines peuvent-ils démontrer leur valeur ajoutée? Et puis on lui demandera aussi de partager son expérience dans la transformation de la fonction ressources humaines, à travers laquelle on voit différentes évolutions. Par exemple, celui du rôle de partenaire d'affaires, mais aussi ceux de centre de service et centre d'expertise ressources humaines. On lui demandera aussi si ces transformations de la fonction ressources humaines peuvent s'appliquer aux petites et moyennes entreprises, et on lui demandera aussi les distinctions, les différences qu'on peut voir dans la réalité et dans les milieux des affaires lorsqu'on parle de stratégie des personnes. Qui est Éric Beautoin?
Premièrement, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Surtout que j'ai étudié au HEC, qui était une maîtrise en administration de services de santé avec le pavillon de la médecine. C'est une grosse question existentielle pour commencer. Si je vais de façon factuelle, je suis un gars de Charlevoix qui a grandi en Beauce, puis qui par la suite, avec le goût de l'aventure, a fait des études au Manitoba, en Colombie-Britannique, qui a pris une année d'aide humanitaire dans le Nord canadien et au Guatemala, puis pour continuer finalement à Ottawa, qui, à travers son expérience en tant que page au Sénat du Canada, a décidé d'aller plus en politique et côté administration. Donc, j'ai fait ma maîtrise en administration de services de santé. Pour la suite, commencer en milieu hospitalier, puis débuter ma carrière par le plaisir que j'ai eu d'être découvert par une VP RH qui m'a donné le goût et la passion des ressources humaines. Puis le reste, c'est l'histoire. J'ai grandi pour être directeur capital humain, puis ensuite, sachant que je ne connaissais pas assez, parce que je n'ai pas fait le même cours que vous faites en ce moment, j'ai été rejoint par la firme de consultants Deloitte. Ensuite, j'ai commencé là, j'ai fait près de 4 ans pour retourner en milieu hospitalier et finalement, je fais mon retour actuel en consultation avec la firme Sia Partners. Les firmes, il y a les grandes firmes donc stratégiques, donc McKinsey, Bain, Boston Consulting Group, BCG. Il y a aussi les firmes qui font beaucoup de côté comptabilité, mais qui font aussi beaucoup de consultations. Donc, on parle de PwC, EY, Ernst & Young. Deloitte et KPMG. Et finalement, il y a des firmes à forte croissance mais qui sont plus de niveau boutique, qui ont des spécialisations ou qui font un peu de tout, mais qui sont de moins grande échelle, soit au niveau international ou soit au niveau des offres de services qu'ils peuvent faire ou des industries qu'ils couvrent. Sia Partners est un petit peu entre le niveau boutique et le niveau grande firme, le Big Four. Mais le marché est tellement grand que tout le monde en a pour un peu tirer sa part de la tarte, si je peux utiliser l'expression. Donc, Sia est un petit peu entre les deux, en forte croissance, donc plus de 30% par année. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est un environnement où on peut être appelé à faire un peu de tout, donc ce qui, moi, m'attire énormément.
Vous avez eu l'opportunité d'accompagner de nombreux leaders DRH au fil des années en Amérique du Nord et en Europe. Pourquoi est-ce que c'est si important, selon vous, d'être stratégique en ressources humaines?
C'est une bonne question, puis c'est la question que tout le monde se demande et comment on peut être stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être stratégique? La définition va être différente tout dépendamment du chef RH, donc du VP RH ou d'un directeur RH, ou encore est-ce si c'est le président directeur général, le PDG, qui pose la question ou encore un collègue VP des finances. Pour moi, être stratégique pour les ressources humaines, c'est d'être proactif. Donc, être capable d'envisager le futur, pas seulement vivre dans le passé ou dans le présent. Parce que souvent, les opérations, c'est du passé. Donc, c'est des choses qu'on est capable de mettre dans des dossiers pour pouvoir se référer dans, si on en a besoin, mais c'est du passé. Les demandes qu'on a des transactions, pas des transactions, mais des demandes, que les, des requêtes que les employés font, ça, c'est du présent. Ou les défis, on conseille les gestionnaires, c'est du présent. Être stratégique, pour moi, c'est être capable d'anticiper, d'aller vivre dans le futur, de pouvoir faire des stratégies pour aider l'organisation à atteindre les objectifs qu'ils ont besoin. Donc ça s'appelle être aligné également. Voir c'est quoi les clients à l'interne des RH, qui sont des clients, en fait, les employés, les gestionnaires sont des clients des ressources humaines. C'est quoi leurs objectifs? C'est quoi leurs défis? Comment est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi de leurs demandes également, de façon à aller à la base? Puis après ça, dans nos stratégies, être mieux capable de s'aligner avec ce qu'ils auront besoin, ce qu'ils ont besoin actuellement, et également ce qui, selon leurs objectifs à eux, ou de l'organisation, disons de la croissance, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, une croissance, on va aller voir vers l'acquisition de talent, ou on peut aller voir vers une valeur, comment est-ce qu'on se présente dans le marché. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut penser. C'est aussi savoir prendre des risques calculés. Être stratégique, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir, tu vas être pile poil tout le temps, à 100 %. En fait, une stratégie, selon mon expérience et ce que je dis toujours à mes clients ou encore avec ceux que je travaille, on va l'atteindre à environ 80 %. Si on en fait 80 %, c'est qu'on était vraiment très, 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 très bon. Il faut gérer les attentes parce qu'on ne peut pas prévoir tout dans l'inconnu. Donc, pour mettre, se donner un petit peu de l'espace pour pouvoir modifier puis changer la stratégie. Et une stratégie de 5 ans, c'est difficile parce que la courbe du changement ne fait qu'augmenter. Si vous regardez il y a 2 ans, est-ce que vous pensiez que COVID allait nous impacter? Non. Si vous remontez il y a 10 ans, est-ce que vous saviez que les téléphones cellulaires feraient partie de votre vie à tous les jours? Pas autant. Donc, il faut pouvoir laisser de l'espace pour des choses qui vont émerger et pouvoir innover également et penser différemment. Une chose que j'aimerais, en fait, puisque tu ouvres la porte, j'aimerais faire la différence entre une stratégie des gens, donc People Strategy, et une stratégie RH. Souvent, c'est la plus grosse, méconnaissance, mais compréhension différente que les gens ont et qui, pour moi, j'ai à cœur de le démystifier. Stratégie des gens, c'est vraiment axé sur la main-d'œuvre, les gens dans l'organisation, quel type d'habileté, de compétences, de connaissances pour le futur du travail ils vont avoir besoin pour rester relevant, rester à jour avec les besoins de l'entreprise et les besoins futurs. Puis également, regarder c'est quoi les influences du marché externe, les influences des choses qui se passent à même l'organisation, les types de talents, comment on mobilise nos talents. Une stratégie RH, c'est vraiment regarder vers nous-mêmes comment on peut s'améliorer au niveau des activités qu'on fait pour réduire les pertes, pour augmenter l'efficacité, pour implanter une nouvelle technologie qui va nous aider. Pour changer les types de programmes qu'on fait, la façon dont on livre nos services. C'est pour moi pas des stratégies interchangeables, mais c'est des stratégies complémentaires. Une axée vers nous et une axée vers nos clients à l'interne.
Merci de cette précision. C'est souvent le cas et il y a pas mal d'articles qui essayent un petit peu de distinguer les deux. Parfois, on utilise un terme pour l'autre et merci d'avoir apporté cette distinction. L'autre question par rapport à la littérature, elle revient souvent sur l'idée que les ressources humaines sont vues comme une dépense plutôt qu'un actif dans plusieurs entreprises, si je vous entends rire. Qu'avez-vous pu observer à ce sujet?
Oh, c'est le plus gros défi, je crois, que tout le monde fait face lorsqu'il commence leur carrière ou au cours de la carrière en ressources humaines. Les gens savent, c'est love-hatred relationship, donc c'est une relation d'amour et d'haine avec les ressources humaines. Parce que oui, c'est ça coûte cher, puis on est souvent vu comme des bureaucrates. Mais c'est aussi parce que nous-mêmes, on est notre pire ennemi, je crois. On est trop humble. Et on n'est pas capable de bien démontrer et articuler notre valeur, non seulement au niveau stratégique, mais non seulement d'aider dans le travail du jour à jour que les gestionnaires ou les employés ont. Par exemple, si dans la dernière organisation à laquelle je travaillais, qui était un hôpital top 4 dans le monde, University Health Network à Toronto, les gens ne savaient pas, lorsque je faisais mes tournées pour développer la stratégie des gens pour l'organisation, les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'on offrait. Les gens s'étaient habitués à avoir des attentes très, très minimes des ressources humaines parce qu'ils ne voulaient pas avoir affaire, parce qu'ils se faisaient souvent dire ah, oh, c'est pas disponible en ce moment, etc., etc. Mais j'ai tourné la donne en créant un menu des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on offre actuellement? Puis, genre, je le partageais à chaque fois que je faisais mes consultations, puis les gens étaient étonnés. Pourquoi est-ce qu'on cache tant au niveau des ressources humaines nos services et pourquoi on n'en fait pas plus la promotion? Il faut être un petit peu faire du marketing de nos services à l'interne si on veut que les gens puissent en bénéficier au lieu de les garder pour nous. Je dirais que c'est le plus gros défi et ce qui fait en sorte que les gens, pour revenir à la question, nous voient plus comme une dépense plutôt qu'un actif parce qu'on n'est pas capable de partager autant ou faire le marketing de nos services ou encore de s'aligner autant sur les besoins de l'organisation qui donc revient à être stratégique, être aligné, être proactif et savoir prendre des risques calculés.
Ben justement, ADP a réalisé une étude en 2018 où un Canadien sur trois sondés estime que le travail des ressources humaines est sous-estimé. Comment les RH peuvent-ils contribuer alors à démontrer leur valeur ajoutée?
Ça, c'est la question existentielle que tout le monde tout le monde aurait en fait sa réponse différente ou son approche différente. La mienne n'est pas meilleure que les autres, mais mon approche à moi, c'est simplifier le complexe. Vous allez vous rendre compte, vous allez avoir un bac en RH ou au Connex en affaires. Vous allez un pouvoir de simplifier le complexe parce que vous allez comprendre des choses que les gestionnaires ou les employés ne comprendront peut-être pas. Vous devez être ce vulgarisateur des principes RH ou de la loi ou que ce soit encore des programmes ou des services qui sont à faire ou encore des politiques internes. Soyez le vulgarisateur, simplifiez le complexe. Connectez les points, donc connect the dots. Souvent, les gens ne font pas le lien. Pourquoi est-ce que je fais mon évaluation de performance? Mais en fait, c'est aussi pour ta croissance personnelle, parce que comme ça, tu vas pouvoir voir, on peut avoir une discussion sur ta carrière, tu peux voir où tu peux t'améliorer, comment tu es aligné avec le poste, ou peut-être que le poste n'est pas parfait pour toi, peut-être qu'un autre poste serait bon. Encourager les gestionnaires à avoir cette mentalité-là également. Puis ça peut amener ensuite à la rémunération, ça peut amener ensuite à l'engagement parce que l'employé va être plus engagé, etc. Il y a plusieurs choses, tous les programmes et services RH sont interreliés, puis connecter les points pour les gens ou les services et les programmes ensemble va bénéficier énormément. Également, l'expérience. Ne jamais minimiser l'expérience que les gens ont. Les gens se rappellent beaucoup de comment ils se sont sentis la première journée, comment ils se sont sentis en tant que candidat, comment ils se sont sentis lorsqu'ils ont approché les ressources humaines dans une situation qui soit super positive ou super, pas négative, mais difficile. Créer cette expérience-là pour que les gens se souviennent des RH de façon positive. Et créer moins de stress, donc gérer de manière proactive. Attendez pas qu'il y ait une situation difficile avant d'agir. Essayez de voir quelles seraient ces situations-là. Ou si ça arrive une fois, apprenez, puis essayez d'appliquer pour changer les programmes, les processus, les politiques ou l'approche des ressources humaines pour pouvoir être davantage à l'avant de leur situation difficile et ainsi réduire le stress qu'ils ont ou savoir qu'ils vont être bien reçus via l'expérience.
Ça donne des bonnes indications que j'aime entendre parce que ça permettra aussi à nos étudiants de se rendre compte vers où c'est important de focaliser pour être amené à démontrer sa valeur ajoutée. Et nos étudiants, je continue là-dessus, ont parfois de la difficulté à comprendre ce qu'implique la transformation de la fonction ressources humaines. Peut-être qu'ils vont en vivre une, peut-être qu'il y en a déjà une qui s'est produite dans l'organisation qu'ils vont joindre. Les transformations focalisent moins sur les transactions ressources humaines et plus sur le volet stratégique et l'expertise ressources humaines. Et là aussi, ce n'est pas toujours très évident de comprendre la nuance entre les trois. Racontez-nous un de vos mandats.
Bonne question encore là. Transformation de la fonction RH. En fait, je dirais que tout le monde devrait être en transformation. Juste pour faire une clarification sur mon chaîne de pensée, tout le monde devrait être en ressources humaines en constante transformation. Le changement est continu. Il y a toujours des nouvelles technologies, il y a toujours des nouvelles façons de penser, il y a toujours des nouveaux objectifs à l'interne et toujours des moyens d'augmenter notre efficacité. Donc, l'idée que la transformation RH est une ou deux fois où on peut le vivre, je dirais, vous allez tous le vivre, ou encore soyez l'agent de changement qui va initier cette transformation-là. Puis la transformation, ça va être un petit T ou un grand T, pas besoin de révolutionner le monde. Chaque amélioration qui sont faites peut être une transformation. Ceci étant dit, un de mes mandats, je dirais que c'est super intéressant en fait. C'était pour réduire les pertes de temps. Le client avait des fonds avant la fin, vous savez, avant la fin de l'année fiscale. Souvent, on doit dépenser de l'argent dans le budget parce que sinon, on perd le budget parce que l'année prochaine, ils vont se baser sur le budget que j'avais l'année d'avant pour me donner cet argent-là pour l'année suivante. Donc, le client avait un peu plus d'argent à dépenser avant la fin de l'année, puis il cherchait à optimiser un de ses processus dans un centre régional de soins de santé mentale. Dans le coin de la grande région de Toronto. On regarde le processus actuel, on regarde qu'est-ce qu'ils font, on regarde qu'est-ce qu'on peut éliminer, on regarde qui est dupliqué, qui n'a pas de valeur ajoutée, en fait. Puis, une idée pour vous donner une image mentale claire dans votre tête pour visualiser la situation. Quelqu'un a un fax. Je dis OK, parfait. Qu'est-ce que vous faites avec le fax? Ben, OK, je m'en vais, je l'envoie. Je dis OK, parfait. Donc, ça, c'est peut-être une opportunité également. Connaissez-vous le fait que vous pouvez envoyer par email un fax? Ah non, je ne savais pas, excellent. Puis là, j'étais comme OK, le fax, c'est pourquoi? Ah, je ne sais pas, je faisais ça. La personne avant moi faisait ça, donc ça doit être important. Je dis ah, oh, intéressant. Où il va le fax? Va à telle personne, parfait. Je connecte avec la personne. Qu'est-ce que vous faites avec le fax? Ah, oh, je le mets au déchiquetage. Je dis, OK, que vous ne vous rendrez pas l'information. Qu'est-ce que vous faites avec l'information? Ah, oh, j'en ai plus besoin. Maintenant, c'est automatisé. Je reçois l'information d'une autre façon. Intéressant. Il faut toujours poser des questions. Donc, dans ce mandat-là, on a pu réduire auprès environ 50 % des activités. Donc, on a sauvé environ 4 à 5 heures pour deux personnes par semaine pour une année. Complète, juste en posant des questions puis en étant curieux d'aller à la racine pour savoir qu'est-ce qu'il en est de l'information, comment il est utilisé. Mais vous allez vous heurter lorsque vous commencez votre carrière à faire ces petites transformations-là parce que les gens vont dire, ah, c'est comme ça qu'on le fait. Mais n'hésitez pas à poser des questions et à voir et à proposer ces petits changements-là. Et avec le temps, vous allez construire la confiance et réussir à faire un impact majeur. En termes de grosses transformations, j'en ai fait également en Irlande, où on a revampé la façon dont les services RH étaient distribués au niveau du pays avec leur service policier, leur corps policier. Ce qui était encore là super intéressant parce que les RH ne pouvaient pas être partout. Donc, comment offrir les services et sentir qu'ils étaient là 24/7 et que la formation avec le collège policier pouvait se faire et les juxtapositions également avec les autres services internes, parce que faut pas oublier, les RH ne sont pas isolés. On travaille beaucoup avec les TI, on travaille beaucoup avec les finances également. Donc, comment être ce partenaire-là à même l'organisation est toujours important dans une méga transformation.
Merci d'avoir partagé ces expériences-là. Ça permet de voir concrètement ce que ça veut dire aussi et en même temps de démystifier des termes qui ne sont pas toujours très, très bien compris, surtout si on n'a pas encore travaillé dans ce genre d'environnement. Mais je pense que nos étudiants vont en tout cas commencer leur première journée de travail en ayant au moins compris ces concepts clés. Et je sais que les organisations continueront à les vivre. Comme vous dites, c'est toujours un changement continu. Et un des rôles clés, du coup, qui est mis de l'avant dans ces fonctions ressources humaines, c'est celui de partenaire d'affaires ressources humaines. Comment voyez-vous évoluer ce rôle?
C'est une des meilleures avancées. Je crois que aider les ressources humaines pour revenir à la question, faire le lien avec une question précédente, à démontrer la valeur des RH. J'ai vu chez beaucoup de clients, lorsque le Le modèle de partenaire d'affaires RH fonctionne bien et bien établi. Toute la différence avec les clients internes de l'organisation, donc les gestionnaires ou les employés ou encore les membres de l'équipe des exécutifs, donc des VP et du président directeur général. Il y a même parce que le principe même en partenariat d'affaires semble simple, mais ce n'est pas aussi simple à cause des opérations. Il y a tellement de choses à faire que le partenaire d'affaires est souvent pris dans ces opérations-là. Donc, c'est comment l'amener, je dirais, si on peut juste assurer d'amener le partenaire d'affaires à être un petit peu plus proactif et aligné et à être vraiment, que son bureau ou ses affaires, ses réunions soient majoritairement avec ses clients de façon à ce qu'il puisse être le broker, d'être la personne qui est capable de partager les services et programmes que les RH peuvent offrir et optimiser la gestion de la main-d'œuvre à même ces unités-là, les unités des clients. Toutefois, est-ce que le partenaire d'affaires est en mesure d'avoir la confiance de ses clients internes? Est-ce qu'il a les bons outils? Est-ce que le reste des RH sont capables de leur offrir des outils, d'adapter les outils, de voir c'est quoi les meilleures pratiques ou encore de prendre le feedback, la rétroaction qu'ils obtiennent des partenaires d'affaires pour pouvoir modifier, améliorer ou encore réaligner les politiques ou les autres éléments des services de ressources humaines? C'est hyper important parce que souvent, les partenaires d'affaires se sentent pas en silo, mais séparés. Et il y a un manque de circulation d'informations, à même les ressources humaines, qui est le plus grand défi. Ou encore, les gens vont rejoindre Linda parce qu'ils connaissent très bien Linda. Mais là, ça défie un petit peu le partenaire d'affaires. Donc, pour revenir à la question exacte, comment ça va évoluer? Je le vois en étant capable de voir davantage que la base des ressources humaines, de voir les gens en tant que des ressources qui peuvent bénéficier à l'organisation et de voir comment maximiser et optimiser l'utilisation des talents. Vous allez voir dans votre carrière, vous allez voir, vous pensez probablement actuellement, vous avez peut-être des talents cachés, que vous êtes bon avec le dessin, le design, vous êtes bon avec la programmation SQL ou encore Python. Mais souvent, les RH ne le savent pas, votre boss ne le sait pas. Le travail, pour moi, du partenaire d'affaires dans le futur va être capable de mobiliser toute l'intégralité des talents à même l'organisation de façon à bénéficier, de faire ressortir les éléments, les facettes des gens qu'on ne connaît pas pour pouvoir optimiser. Parce que souvent, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui est bon, qui est capable de faire du coding. Je vais aller à l'externe ou je vais prendre un consultant. C'est bien, toujours bon pour les consultants, appelez-moi, toujours là, toujours présent. Mais souvent, il y a quelqu'un dans les équipes à l'interne qui désire et qui étudie là-dedans les soirs et fins de semaine parce qu'il aime ça. Comment aller chercher cette personne-là? Parce que de toute façon, un beau jour, elle va quitter l'organisation parce qu'elle veut continuer sur cette journée-là de carrière. Et donc, le partenaire pourra jouer ce rôle de mieux connaître l'intégralité des talents et faire l'optimisation. Puis aussi, il ne faut pas oublier, partenaire d'affaires RH, ce n'est pas juste pour les relations de travail ou les relations d'employés, en fait. Ça va beaucoup plus loin. On parle maintenant de partenaire d'affaires en acquisition de talents, en rémunération globale, en développement organisationnel, etc., etc.
Intéressant comme rôle. Et je sais que nos étudiants vont potentiellement arriver vers ces rôles-là, bien qu'en ressources humaines, on doit quand même quelques années d'expérience. C'est quand même des postes assez seniors, selon les différents affichages que je peux voir. Si on passe à la question suivante, il arrive parfois que l'on confonde maintenant centre de service et centre d'expertise RH. Avez-vous des exemples concrets pour nous aider à y voir plus clair?
Oui, en fait, c'est là on tombe un peu dans l'abstrait. On parle de modèle de service. Donc, un centre de service, c'est l'endroit où les gens peuvent aller pour s'ils ont des questions, des requêtes, s'ils ont besoin d'informations, de clarifications, de changements, de mise à jour de leurs documents. C'est vraiment l'endroit, ce qu'on appelle qu'on peut rejoindre par téléphone, par courriel ou encore via les systèmes de technologie, tout dépendamment des systèmes de gestion de services ressources humaines que vous avez dans l'organisation. Le but vraiment d'un centre de services, lorsqu'il est bien instigé, c'est de vraiment répondre à presque 80 % des demandes, de façon à ce que le reste des ressources humaines peuvent continuer à répondre aux besoins ou encore être davantage proactifs. Le centre des services va souvent faire, c'est souvent des questions reliées à la paie, c'est souvent des questions reliées à les mises à jour. Encore là, le plus gros fléau, c'est que les gens, je m'appelle Eric, je connais Linda, ça fait 20 ans que je travaille avec Linda. Linda travaillait au centre des services, mais elle ne travaille plus là, elle travaille dans un centre d'expertise, mais je continue à travailler avec Linda parce qu'elle me répond rapidement. Il faut éviter ça le plus possible parce que ça va à l'encontre de l'optimisation des processus. Donc, c'est une des choses que vous allez vous rendre compte, puis qu'il faut travailler davantage au niveau marketing et communication pour qu'ils sachent c'est quoi les bons canaux de communication avec le centre des services qui, eux, sont beaucoup plus à jour avec les politiques, sont à jour avec la façon de faire, donc les processus dont les choses doivent évoluer ou les formulaires encore là qu'il faut remplir pour atteindre les objectifs qu'ils ont. Le centre de service n'est pas capable. C'est beaucoup plus complexe parce que pas tout est noir ou est blanc, mais la majorité sont et c'est plus facile de répondre. Mais si c'est beaucoup plus complexe, on peut faire appel à un centre de service ressources humaines qui peut les aider à répondre aux questions. Donc, parce que c'est eux, à la fin, en fait, qui créent ces politiques-là. Donc, ils sont en charge souvent de mettre à jour les politiques, de créer une nouvelle politique, par exemple, pour le redéploiement à même la situation qu'on est actuellement avec COVID. Ou encore de créer les programmes, modifier, améliorer les programmes, voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, donc les meilleures pratiques sur le marché des compétiteurs, ou encore de prendre le feedback des partenaires d'affaires pour améliorer les programmes, services ou processus à même l'organisation. Donc, le centre d'expertise est davantage la deuxième ligne pour aider et pour qu'ils puissent focusser vraiment sur la livraison des programmes ou encore la création ou l'amélioration. Et le centre de service, ça c'était le centre d'expertise, le centre de service c'est plus le jour, day-to-day, des questions, les opérations, le centre d'administration qui peut vous aider avec les questions immédiates pour faire les modifications.
Parfait, c'est beaucoup plus clair pour nous et merci pour ces exemples. J'aime beaucoup l'idée que Linda, on va souvent vers elle parce que c'est vraiment la réalité. Et d'ailleurs, au Québec, on entend souvent qu'on a beaucoup de PME. Est-ce que ce type de transformation s'applique aussi pour les petites et moyennes entreprises ou voyez-vous d'autres modèles pour appuyer la fonction et les professionnels des ressources humaines dans leur évolution?
Comme j'ai mentionné plus tôt, je vais mettre l'emphase sur ce point-là. La transformation, c'est vraiment pour tous. La transformation avec un petit T ou un grand T, donc pas besoin de révolutionner. La transformation peut être partout pour les plus petites ou les plus grandes organisations et peut être dans des petites transformations qui vont faire en sorte d'améliorer. Il faut définitivement s'adapter. On est une PME, on a besoin de faire du rendement, on a besoin de s'adapter. On n'est pas assez grand pour avoir un grand service, une grande équipe RH, mais on est assez grand pour pouvoir en avoir quelques-uns. Mais à ce moment-là, on a besoin d'avoir plus de généralistes. Ce que ça veut dire, c'est que le modèle doit être différent. Comment on donne les services au niveau des ressources humaines va être différent. Au lieu d'avoir plusieurs centres d'expertise ou des spécialistes, on va avoir des généralistes qui vont avoir un intérêt pour certaines spécialisations, donc peut-être qui aiment la relation de travail, qui aiment la rémunération, qui aiment la reconnaissance, qui aiment l'engagement, qui aiment le développement organisationnel ou le développement professionnel, qui vont avoir cette deuxième tâche, ce deuxième chapeau pour développer le programme ou encore les politiques. Le but avec les PME, je dirais, de la transformation, c'est souvent qu'ils vont mettre l'emphase au départ, ou encore, si je peux faire le lien avec les startups, qu'ils vont mettre l'emphase sur l'acquisition de talents. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils grossissent, vont mettre plus d'emphase sur les relations les relations de travail et construire les bases de tous les programmes, ou encore clarifier les processus, ou encore clarifier les politiques des ressources humaines. Bien sûr, toujours présent dans toutes les organisations et la paie. Si je peux faire le lien avec la pyramide de Maslow, les besoins à la base, tout le monde, je suis sûr, lorsque vous allez commencer à travailler dans votre carrière ou si vous n'avez pas déjà travaillé, vous voulez être payé, vous voulez avoir des vacances, vous voulez avoir des bénéfices. Donc ça, tous les RH doivent couvrir ça. Le reste, dépend vraiment, lorsque tu es en situation de PME, surtout les plus petites entreprises, va dépendre de c'est quoi les besoins, les aspirations de l'organisation et les besoins actuels. Je vous dirais, c'est un super environnement pour commencer une carrière parce que vous allez toucher un peu de tout. Et si vous avez l'opportunité de travailler avec un gestionnaire RH qui s'y connaît, vous allez apprendre beaucoup d'eux, surtout parce que vous allez devoir faire face à des défis qui sont toujours différents. Et vous allez avoir une relation avec les gestionnaires ou le président directeur général ou les VP ou les directeurs de d'autres départements beaucoup plus rapprochés, qui peut être très valorisant également, ce que souvent les gens aiment avoir.
Merci pour cette réponse. Vous avez également été à la tête de la fonction ressources humaines dans le secteur de la santé et avez développé une stratégie ressources humaines. Est-ce que je devrais plutôt dire stratégie des personnes? Parce que j'avais vu People Strategy.
Oui.
Donc, je vais refaire la question, comme ça on aura la bonne. Je veux dire stratégie. En français, ça se dit stratégie des personnes, c'est ça? Ou stratégie des
Des
talents? Comment
personnes, de la main-d'œuvre, ça dépend de la
tu...
traduction, c'est mal un peu, mais.
Ok, parfait, je vais la reprendre. Vous avez également été à la tête de la fonction ressources humaines dans le secteur de la santé et avez développé une stratégie des personnes. Quels sont les principaux apprentissages de cet exercice?
Premièrement, démystifier même à l'interne, c'était quoi la différence entre stratégie des personnes et stratégie ressources humaines. Donc, j'ai passé du temps à faire ça parce qu'ils étaient habitués à une stratégie ressources humaines où on était plus focusé sur nous-mêmes, alors que l'organisation avait soif qu'on soit plus axé envers eux et leurs besoins à eux, et également l'aliment retiré. Donc, la première étape, c'était vraiment de retirer les éléments qui touchaient les gens, la main-d'œuvre, à travers la stratégie de l'organisation, la stratégie du département de l'éducation, parce on était un centre focal pour le niveau provincial, pour l'éducation et même international, au niveau des professionnels de la santé, de la recherche, au niveau de la stratégie, même des finances, voir comment on pouvait exciper ces éléments-là de façon à se connaître comment pourraient être les synergies et les besoins d'organisation. Une fois ça que c'est fait, j'ai appris également qu'il fallait faire communication, communication, communication. On ne communique jamais assez où on en est dans le processus. Revenir avec les gens, leur dire, OK, oui, j'ai fait, on a consulté avec 400 personnes, voici ce qu'on a, toujours remonter vers le haut, s'assurer que les collègues VP et le PDG sont alignés, ils aiment qu'est-ce qu'ils voient, puis que c'est vraiment avec les besoins qu'on est capable de démontrer c'est quoi les besoins qu'on va répondre, actuels et futurs. Et également, toujours, toujours démystifier que la stratégie c'est pas quelque chose qu'on fait actuellement, c'est quelque chose qu'on aspire. Grosse différence, en fait, j'ai appris ça avec ce dernier emploi-là que j'avais sous-estimé le fait que les gens voyaient les stratégies comme un plan de travail plutôt que d'une aspiration. Une stratégie, tu dois pousser plus loin pour aller voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire de façon à vraiment faire briller l'organisation et nos gens en tant qu'employeur, mais également en tant que leurs objectifs dans leurs unités ou dans leurs programmes. Également, la plus grosse révélation que j'avais déjà, mais j'ai vraiment pu appliquer de A à Z cette fois-ci, c'est la notion de la capacité de nos équipes. Le plus grand défi qu'on a, surtout en transformation ou en stratégie, lorsque vient le temps de mettre en œuvre une stratégie, c'est que les gens sont occupés. On est tous occupés, on a déjà une charge de travail. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Même si tu leur dis, ouais, mais ça va te faire gagner du temps. J'ai pas le temps actuellement, je suis inondé. Donc, c'est de voir, ma plus grande suggestion que je peux faire, c'est de faire un calendrier de l'impact que j'ai vu qui fait une différence, c'est de faire un calendrier des activités annuelles des ressources humaines. Donc, faites-vous les évaluations de performance? En mars, avril, OK, parfait. Ça veut dire que l'équipe de développement organisationnel ou l'équipe qui s'en occupe et les gestionnaires et les employés, ça ne sera pas un bon temps pour eux si j'introduisais un nouveau programme qui demande leur participation pour que je puisse être sûr de faire une bonne implantation. Si je veux faire un changement, implanter un nouveau système de paie, ben je ne le ferai pas à la fin de l'année calendrier ou à la fin de l'année fiscale parce qu'ils sont déjà très occupés à fermer, à mettre à jour le système ou encore à envoyer les rapports de fin d'année. Avoir ça, ça va faire une grosse différence. Puis, il y a multiples façons. Si vous êtes curieux, rejoignez-moi, ça me fait plaisir de voir ça pour bien calculer la capacité des gens pour pouvoir faire un plan d'implantation, donc un roadmap qui va être aligné avec la capacité. Et aussi, soyez ambitieux, mais n'essayez pas de tout faire parce que ça va décourager vos gens. Choisissez 3 ou 4 gros éléments qui vont faire un big bang et le reste, mettez des petites réalisations qui sont possibles dans votre stratégie de façon à ce que ce soit réaliste et que ce soit atteignable. Puis également, que vous ayez gagné la confiance des gens dans l'organisation pour que vous ne soyez pas en mode de promettre sans pouvoir livrer parce que souvent, vous allez encore là voir les gens qui sont là depuis 20, 30 ans. Oui, tu es un autre qui a une autre stratégie. C'est bien beau en papier, on ne fera rien. Mettez-en moins, livrez davantage. Mettez toujours l'astérisque comme de quoi que vous allez faire 80. On va être, puis pas que vous, mais qu'ensemble, on va être capable de faire au moins 80%, que c'est le but. Et soyez prêts aussi à mettre à jour votre stratégie parce que comme avec COVID, il a fallu s'ajuster à l'hôpital pour pouvoir mettre ça de côté et accélérer en fait certains éléments de la stratégie et mettre sur la glace certains autres éléments. Comme par exemple, on a dû créer un système en l'intérieur d'un mois, un système et mettre en place un département de gestion du redéploiement du personnel. Donc, pour les unités qui étaient fermées, on redéployait vers les unités COVID ou encore pour la prévention du COVID ou encore pour les soins de longue durée, on en avait 20 qui ont été mis sous notre gouvernance pour les aider et redéployer le personnel, les former, s'assurer qu'ils avaient les bonnes capacités ou encore la bonne expérience ou encore l'orientation qu'ils avaient besoin. Je vous dirais qu'on a travaillé très, très fort, mais on a également été récompensé avec un prix national parce qu'on était capable de maintenant, avec le système, d'automatiquement voir quelqu'un, un gestionnaire pouvait soumettre son besoin avec les capacités, l'horaire et le type de professionnel. Et le système avec AI, donc l'intelligence artificielle, pouvait voir quel bon match peut se faire et un humain pour s'assurer de la vérité parce qu'on ne peut pas jouer avec la vie des gens, parce qu'on parle du domaine de la santé. Un humain qui est expert pouvait dire oui, pour ce type de profession-là, donc un inhalothérapeute, il peut faire et il serait capable de le faire, parfait. Le match se fait, l'employé, le gestionnaire qui envoie l'emploi, qui peut libérer l'employé, le gestionnaire qui a le besoin, reçoivent les confirmations et vont commencer leur emploi, leur redéploiement.
Pour la même occasion, avant d'aller vers la dernière question, je tenais d'abord à vous tirer mon chapeau. Vous tirez vos chapeaux, pourquoi? Parce que vous avez été dans une industrie qui a été frappée de plein fouet l'année dernière avec la COVID. Et j'imagine d'autant plus que ça peut avoir comme impact sur les effectifs, les personnes et donc la fonction des ressources humaines aussi.
Oui, donc les ressources humaines, je crois, vont changer à vie. En fait, ça fait partie de cette transformation-là, mais c'est juste une transformation accélérée. COVID a accéléré également la transformation numérique, mais les ressources humaines ont un énorme rôle à faire. Je vous dirais qu'à l'hôpital, et on ne s'en cache pas, il y a moins d'un an, personne ne connaissait les MS Teams ou le Skype ou les rencontres virtuelles. La vidéoconférence était très peu utilisée, ou encore le chat, ou encore les dossiers en ligne numériques. Et à l'intérieur de 3 mois, on a dû aider les gens à faire le saut de ce changement-là. Heureusement, au RH, on avait déjà amorcé le changement, mais dans le reste de l'organisation, à s'adapter et à travailler de façon virtuelle. Mais le plus gros défi, vraiment, moi, mon travail était, oui, c'était stressant, oui, ça a été des longues heures, donc je vous dirais des 80 heures par semaine pendant multiples mois. Mais le travail, vraiment, c'est les gens en première ligne, qui, eux, faisaient face non seulement avec le stress d'être davantage exposés au virus, mais également le stress que leur famille avait également, que eux, le fait qu'ils travaillaient avec le virus. Bien sûr, l'équipement était là, mais au début, on se rappelle, en mars et en avril, On connaissait très mal le virus et l'environnement était vraiment unique. Et on gérait justement les ressources humaines. On a mis des centres pour permettre aux gens de se déstresser dans tous nos hôpitaux. On en avait 4, plus les 20 centres de soins de longue durée, pour qu'ils puissent aller décompresser avec des barres de chocolat ou des barres de protéines ou du yoga en ligne qui joue en boucle, mais faire s'assurer également de stériliser les équipements. Donc, encore là, c'est de saisir l'occasion. Être stratégique, c'est saisir l'occasion de faire une différence pour nos employés. Puis je sais que ces centres de repos étaient grandement, grandement appréciés pour pouvoir s'éloigner. Parce qu'il faut penser que, surtout en milieu hospitalier, tu peux avoir une situation où à tous les 5 minutes, tu as quelqu'un qui meurt sur ton unité. Pour les patients que tu traites, je dramatise davantage, c'est moins que 5 toutes les 5 minutes, mais ça peut arriver. Puis comment tu es capable, toi, en tant qu'humain, de te ressourcer et de pouvoir retourner au travail et donner le meilleur de toi-même, c'est très important. Donc, c'est de là que l'idée des centres de repos sont survenus.
Merci encore. Et plusieurs étudiants obtiendront leur BA en ressources humaines au terme de la session. Que leur recommandez-vous afin qu'ils réussissent cette transition en tant que futurs professionnels des ressources humaines?
Encore là, bonne question. La même chose que j'ai à tous les gens qui me rejoignent par LinkedIn. Curiosité est vraiment le numéro un. C'est la meilleure façon d'apprendre. Oui, les notions de base que vous apprenez dans votre cours sont importantes, mais vous allez devoir être flexible. De un, les pratiques évoluent toujours. Et de deux, les pratiques internes sont un des plus gros défis que vous allez faire face vis-à-vis de ce que vous avez appris. Donc, soyez curieux et soyez flexible. Flexible pour vous ajuster vous aussi, puis flexible également pour continuer à apprendre parce que votre cheminement de carrière va seulement continuer à monter si vous êtes intéressé à toujours continuer votre à apprendre, à lire, à vous mettre à jour parce que ça ne finit pas ici, ça continue pour toujours. Également, prenez en charge votre carrière. Il n'y a pas de meilleur PDG que vous-même. Soyez des propriétaires de l'organisation au lieu d'être des locataires parce que c'est la plus grande différence que ça peut faire en tant que pour votre gestionnaire, également pour l'organisation et pour vos clients internes quand vous prenez ça à cœur. Puis que n'ayez pas peur d'y mettre le travail, ça va être récompensé un jour, même si vous ne voyez pas immédiatement.
Merci beaucoup de votre temps. Et merci d'avoir partagé tous ces enseignements avec nos étudiants et à continuer à nous aider à former la relève en affaires.
Ah, merci beaucoup. Puis je sais que des fois, ça peut paraître plus ou moins clair, mais je suis certain qu'avec le temps, les choses vont devenir claires très rapidement.